France Inter.
Donc là, vous pouvez voir un frelon asiatique qui est en vol stationnaire devant, là. Le procureur vient d'attraper une abeille. Là. Regardez le qui repart. L'an dernier, on a capturé 18 000 frelons en un mois. 18 000.
Cet insecte mesure à peine plus de 2 cm. Bestiole aux ailes sombres, thorax noir, pattes de couleur jaune le plus souvent. Le frelon asiatique est un animal redoutable. Cela fait tout juste 20 ans qu'il a envahi la France, débarquant de Chine, niché dans un conteneur rempli de poteries. Il fait partie des 37 000 espèces invasives recensées à ce jour dans le monde. Chaque année, d'un bout à l'autre de la planète, on en voit apparaître 200 nouvelles. Dans l'Hexagone, il y a près de 3 000 espèces exotiques. Plusieurs centaines sont envahissantes. La plupart sont déjà bien installées. On peut citer pêle-mêle le moustique-tigre, le poisson-lapin, le ragondin, l'écrevisse de Louisiane, la fourmi électrique, beaucoup d'espèces animales. D'autres sont végétales, comme l'ambroisie. Autant d'espèces considérées comme préoccupantes pour notre écosystème qu'elles déboussolent et qu'elles attaquent. Elles déciment des espèces locales. Les scientifiques sont en alerte rouge face à ce danger à la fois écologique, sanitaire et économique. Dernier envahisseur repéré ces derniers mois à la frontière franco-suisse, le scarabée japonais.
C'est un autostoppeur, donc il se déplace grâce donc aux voitures, aux camions, aux trains.
Quand on le détecte, il faut mettre en place tout de suite des actions énergiques. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à éventuellement l'éradiquer.
Dans une semaine, tout juste, va se tenir la COP16 sur la biodiversité à Cali, en Colombie. Ces nouvelles espèces menaçantes seront au cœur des discussions, car elles sont une des causes principales de disparition des espèces à l'échelle mondiale. À l'assaut des espèces invasives, c'est un reportage signé Célia Quilleret. Avec Virginie Lorda, elle nous embarque d'abord en Corse, sur une lagune envahie depuis quelques années par le crabe bleu qui cisaille les verveux, les filets des pêcheurs.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Donc là, on s'est garé au bord de l'étang de Biguglia et on va rencontrer Jean-Louis Guaitella. Il représente les pêcheurs de lagune au comité régional des pêches. On a un beau soleil, il fait très beau. Bonjour.
Belle fille.
Je suis Célia.
Ah bah ça y est.
Enchantée.
Qui est Célia, qui est Virginie?
Je suis Célia, elle est Virginie. Enchantée.
Jean-Louis.
Jean-Louis.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
Merci beaucoup de votre accueil. Désolé pour le retard.
Mais de rien. Et qu'est-ce qu'on fait?
Vous me dites 10 heures à peu près.
Vous voulez vraiment aller sur l'eau?
Oui.
Obligé.
Ouais.
Bon, mais ça va.
Tu vas avec elle?
Marie, tu viens avec nous.
Tu
peux rentrer, tu peux venir en tennis.
Donc là, on descend le petit escalier qui permet d'accéder au bateau. Et le bateau s'appelle Petite Marie, c'est ça?
Alors ça, c'est les embarcations type des milieux lagunaires.
Ça, c'est l'embarcation type pour la pêche à l'anguille et aux verveux. Les verveux, je vous montrerai ce que c'est. Hein? Mais bon, les verveux, à l'heure actuelle, on ne peut pas les installer tant qu'il y a le crabe bleu.
Là, il faut choper un polo. Et donc vous, Marie, je vous laisse vous présenter. Vous êtes?
Alors donc Marie Garrido, je travaille à l'Office de l'Environnement de la Corse et je suis écologue spécialisée sur les lagunes, les milieux lagunaires. Donc mon travail consiste à comprendre le fonctionnement de ces milieux, de ces habitats et de pouvoir anticiper leur dysfonctionnement dans un contexte de changement climatique notamment. Et dès qu'il y a une espèce quelconque qui arrive dans ce milieu ou qui est déjà présente, donc je l'étudie et c'est ce qui s'est passé pour le crabe bleu.
Et là, c'est une invasion de crabe bleu que vous constatez.
Exactement. Ça fait 4 ans. C'est pas un petit
travail.
Allez.
4 ans, difficile pour tout le monde parce que les pêcheurs aussi sont, je pense, excédés.
Tout le monde à bord pour la promenade.
Tu t'assois à mettre sur les rames.
Un peu dessus, ouais.
Parfait. Bah, il y a du crabe. Bonjour, il y a du crabe. Oui. Tiens, voilà, regardez. Hein. Voilà.
Il est énorme celui-là.
C'est un mâle, non?
C'est un mâle. Hein. Et on voit bien ses pattes bleues, non?
Il est au mâche, tu vois.
Voilà, ça c'est la nouvelle activité en Corse, voilà. On pêche plus le poisson, on pêche le crabe bleu.
On pêche plus le poisson, on pêche le crabe bleu.
Ben non, c'est fini, apparemment la pêche au poisson. Bon, je dis pas qu'il impacte autant le poisson, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en voit beaucoup moins de poissons. Alors, est-ce que c'est dû à la présence du crabe bleu? Je sais pas. C'est décourageant quand même.
Parce qu'en fait, le crabe bleu, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit vos filets?
Ouais, il les met en pièces. Alors nous, comme nos collègues du milieu marin, c'est le matériel essentiel, hein, pour prendre du poisson, ce qu'on ne peut plus faire. Alors on calait nos filets la veille au soir pour les retirer le lendemain matin. Mais le seul souci, c'est que même si on prend 2-3 poissons, ils sont cisaillés par les crabes bleus et le filet est en pièces. J'ai déjà jeté 2 calées de filets à 1500, 1400, 1500 euros la calée de filet, il faut en une nuit. C'est évident qu'on ne peut pas continuer, quoi.
Donc là, vous ne pêchez plus?
On ne pêche plus du tout. Alors, on attend avec l'espoir que ça se rafraîchisse. Mais j'ai quelques doutes là-dessus. Puisque l'année dernière, déjà en décembre, il y avait toujours du crabe. Moins actif, certes, mais toujours présent. Alors, on attend que ça se rafraîchisse un peu. Voilà. Là-bas, il y a un pêcheur à la ligne qui pêche du crabe aussi, tiens.
Donc même les amateurs, finalement,
tout le monde pêche le crabe.
C'est devenu un peu le loisir, quoi.
C'est devenu le loisir, ouais.
Mais c'est pas ça qui vous rémunère?
Ben non. Pour eux, oui, parce qu'ils font plaisir aux amis, à la famille. Ils dégustent le crabe. Pour certains, pour les moins vertueux, ils le vendent illégalement dans les restaurants. Mais là, on peut pas lutter. On dirait qu'il s'est mis en place une sorte de marché parallèle du crabe bleu.
Et là, vous avez mis des nasses, justement, pour pêcher des crabes?
Ouais. Moi, j'aurais souhaité participer à éliminer l'espèce. Mais sans la vente, ça veut dire qu'il faudrait travailler en plus et aller jeter le crabe, comme je l'ai fait il y a un mois, dans le maquis. On a fait des masses de crabes bleus, on les a jetés dans le maquis. Et on ne peut pas continuer comme ça, quoi.
Mais pourquoi? Ça ne se vend pas?
Ça ne se vend pas, non. Non, ça ne se vend pas.
Et qu'est-ce que vous pensez, vous, des pêches coup de poing qu'on vous demande, justement? Est-ce que c'est efficace pour éradiquer l'espèce? Est-ce que
ça vous va contribuer, mais bon, il ne faut pas se leurrer. Hein. On ne va pas réussir à éradiquer l'espèce. Là, en ce moment, c'est elle qui est en train de nous éradiquer, là, oui. Là, maintenant, on ne peut plus lancer de filet à l'eau. C'est pareil depuis déjà 3 ans. Hein.
Et vous parlez du Terminator des lagunes, c'est ça?
Le Terminator, bah ouais, comme les Tunisiens l'appellent Daesh. Mais apparemment, eux, ils se complaisent à le pêcher. Ils en font l'activité principale, ils ont fait ce choix-là. Hein. Mais nous, non. C'est pas ce que l'on souhaite. Hein. Non, ce que l'on souhaite, c'est revenir à notre activité principale, quoi. La pêche en lagune, avec la pêche aux poissons, aux anguilles et aux mulets pour reprendre notre activité.
Ça mord vite, hein. Et alors justement, vous, Marie Garrido, on va venir vers vous. Vous êtes scientifique à l'Office de l'environnement de la Corse. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éradiquer cette espèce exotique envahissante? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place?
Alors, on ne parle plus d'éradication pour diverses raisons, scientifiquement déjà, par rapport au fait que la dispersion se passe en mer et que donc chaque... site s'impacte, mais chaque pays également. Et dans le cadre des travaux scientifiques qui ont été menés, la Tunisie impacte la Corse. Comme la Tunisie exploite le crabe bleu, ça sera incessant. Donc déjà, d'un point de vue scientifique, voilà, on ne parle plus d'éradication. Par contre, on va parler de contrôle de population. On va, sur certains sites, privilégier les pêches qu'on appellera donc coup de poing, pour essayer de minimiser, en fait, le stock de population et donc de contrôler ainsi une population faible. Et au bout de 3-4 ans, on fera un bilan justement des actions et on pourra tirer des conclusions si ça a été efficace ou pas ces opérations coup de poing. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi en termes de gestion, alors ça c'est bien en amont que l'espèce arrive, mais c'est important, on voit qu'un milieu, un habitat qui est écologiquement en bon état, est un habitat qui de lui-même va pouvoir en fait restreindre l'explosion de populations comme ça non indigènes. On appelle là les gestionnaires à veiller en fait à restaurer les sites dégradés, à veiller à la continuité du bon état écologique.
Parce que là, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est là, le crabe bleu ?
Alors là, c'est multiple, c'est multifactoriel. Alors, il est arrivé, pas en Corse, mais en Méditerranée, dans les années 35-40. Donc, c'était certainement via les eaux de ballast. On est sur la Seconde Guerre mondiale, donc ça vient des États-Unis. Son aire d'origine, hein, au crabe bleu, c'est le continent américain, côté atlantique. Il s'étend là-bas du Canada jusqu'aux portes de l'Argentine. Donc, dès les années 35-40, on a des observations du crabe bleu en mer Adriatique. En même temps, dans les années 50, on a les Turcs qui ont essayé de faire en fait une exploitation de crabes. C'est pour ça que je parle d'introduction déjà multiple. Petit à petit, donc, il s'est étendu sur le bassin méditerranéen. Pour la Corse, la première observation, c'était les années 90. Et ensuite, pourquoi il s'est étendu le long du bassin méditerranéen ? Certainement la température, qui était, avec le changement climatique, était de plus en plus optimale pour le crabe. Et bien évidemment, la multiplicité de ces habitats qui sont interconnectés tout au long, là pour la Corse, donc au niveau de la plaine orientale, mais également en Italie, en Espagne et le long de la côte languedocienne et PACA.
Et vous, Jean-Louis, vous n'avez pas envie de devenir un pêcheur de crabes, en fait ?
Surtout pas à mon âge. Hein. Comme je disais à Marie, heureusement qu'il arrive maintenant, on est en fin de carrière. Sinon, pour les jeunes, malheureusement... Je sais pas, moi, j'entends parler des prix de 2-3 euros le kilo. 2-3 euros le kilo, ça paye même pas les charges. Voilà. Ah, tiens-toi un peu là. Voilà. La balade est finie.
On arrive sur votre ponton.
Là maintenant, les crabes là dans les nasses, il n'y en a que 4. Il les sortira. Tiens, celui-là, il est si petit qu'il passe pratiquement par maille. Tiens. Allez.
Vous leur en voulez à ces crabes là ?
Bah écoutez, je lui en veux, oui. Je suis un peu dépité. C'était pas le cas il y a un an, hein. Mais là j'avoue que je vois pas de solution.
Voir les crabes là qui ont été récupérés dans les casiers. On va même pouvoir en manger.
Tu le prends là.
Ah ouais, c'est énorme.
Il y en a un gros. Mais
donc ça, c'est le résultat de la pêche
de la nuit.
Il y a combien de crabes à peu près là ?
Il y a une vingtaine de 25 kilos.
Hein ? Ah ouais, une vingtaine. Ouais. Oui.
Ça prouve qu'il y a une invasion.
Ah ouais, non mais ça alors. Ah, oui.
Là, vous êtes en train de nettoyer les crabes ?
Ouais.
Le fameux crabe bleu, qui devient rouge par la suite. Hein. Bizarre, tu vois. Hein, Antoine.
Enchanté.
Hein, un grand pêcheur.
Vous êtes un ami de Jean-Louis.
Un ami. On est tous amis, là.
Et amateur de crabe bleu.
Amateur, ouais. Mon ami se fait mordre par le crabe.
Oh, ne casse pas la pince.
Tiens,
nous. Ça peut pas dire.
Non, euro.
Il faut les prendre par derrière.
Voilà, par là, normalement.
Et là, on est devant la casserole. Donc, c'est des pâtes au crabe.
Au crabe.
Moi, les crabes, je ne veux pas.
Allez, non.
Ah, il y a encore des crabes.
Et pour les filles, il faut bien qu'elles goûtent, non ? Bon appétit, mesdames.
Ah, merci.
Merci.
Et Jean-Louis, vous n'en mangez pas du crabe ?
Non. Je le hais. Je hais le crabe bleu.
Je comprends que vous
en ayez ras-le-bol. Tiens, goûté
ça. Alors,
il y a un peu de chair quand même dedans. Moi, je ne sais même pas si c'est de la chair.
Et ici, en Corse, le crabe bleu n'est pas le seul envahisseur. Sur cette île, une autre espèce redoutable vient tout juste d'être repérée, cette fois dans les airs. Direction Corté, j'ai rendez-vous avec Alexandre Cornuel-Villermoz, entomologiste à l'Office de l'environnement de la Corse.
Là, on vient de quitter l'étang de Bigouglia, où on a vu l'invasion de crabes bleus. Ici, on est plus près de Corté, et vous êtes en alerte maximale depuis quelques jours, finalement, face aux frelons asiatiques. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas de frelons asiatiques en Corse.
C'est ça, là, ça fait bientôt 20 ans qu'il est arrivé, enfin, ça fait même exactement 20 ans qu'il est arrivé sur le continent, et jusqu'à présent, on était tranquille, on n'avait pas eu d'observation avérée. Des signalements ponctuels, mais qui finalement c'était pas du frelon asiatique, c'était souvent du frelon commun ou d'autres espèces. Et donc là, on a eu une première vraie mention de frelon asiatique dans le sud de la Corse. Donc le nid a été retrouvé, on a attrapé des frelons qu'on a pucés avec des balises radio. Ce qui nous a permis avec des antennes de retrouver le nid et de le faire détruire par les pompiers, les apiculteurs rapidement.
C'est l'opération commando, quoi. Il faut agir tout de suite.
Ah ouais, là, entre le signalement et le repérage du nid, on a fait vite, ouais. Et le nid, on l'a trouvé en une heure et demie à peu près. Donc on a eu de la chance.
Et donc là, on peut rentrer dans le hangar où vous avez entreposé ce nid de frelons asiatiques qui a été récupéré.
On peut aller le voir. Oui, on l'a mis à sécher. Le voilà, le fameux nid.
Ah oui, c'est impressionnant.
Une boule de papier qui doit faire dans les 50 cm de diamètre à peu près. En général, on voit les nids de guêpes, les petites guêpes en papier qui sont souvent derrière les volets ou sur une poutre et tout ça. Bah, c'est un peu la même structure, mais en format XXL, quoi, vraiment en très gros. Ça s'attache dans un arbre. Là, c'était à 3-4 mètres de haut.
Si vous ne l'aviez pas trouvé, quel était le risque finalement? C'est que ça se développe à quel rythme ou qu'on imagine le... C'est exponentiel?
Ouais, il faut imaginer que dans un nid, on peut avoir, je crois, à peu près 500 fondatrices. Potentiellement, ce nid-là aurait pu donner des dizaines et des dizaines de nids. Là, on n'avait pas le droit à l'erreur.
On va le prendre en photo, hein.
Ouais, bien sûr.
Puisque c'est un nid historique. Ouais, et ben... En Corse, le frelon asiatique n'a donc pas eu le temps d'essaimer. Et c'est vraiment grâce à la détection express de ce premier nid que l'invasion a été stoppée, pour le moment, sur l'île de Beauté. Alors que sur le continent, cela fait deux décennies que l'insecte fait des ravages. Depuis le Lot-et-Garonne, où il a été repéré pour la première fois, il s'est propagé dans tout le territoire, du sud au nord, et il est maintenant impossible de l'éradiquer. On a dû apprendre à vivre avec ce frelon asiatique, tout en protégeant les abeilles. Des chercheurs de l'INRAE viennent d'inventer une harpe électrique posée comme une barrière devant des ruches. Célia Kiyre nous emmène au plus près, à Bouliac, où elle a rendez-vous avec Denis Thierry, directeur de recherche, spécialiste du frelon asiatique.
Interception sur France Inter.
Donc là, on est dans une commune limitrophe de Bordeaux, tout près de l'INRA, qui s'appelle Bouliac. On est en pleine nature. Hein. C'est une zone où, depuis le début de l'invasion, on va dire dans la communauté urbaine bordelaise, c'est là où on a vu les premiers nids en 2008. Et depuis, il y a toujours beaucoup de populations de frelons ici. Et donc c'est pour ça qu'on se met ici, parce que comme ça, ça nous permet d'avoir beaucoup de frelons qui viennent et on peut faire beaucoup d'expérimentations sur nos ruches.
On s'approche des ruches ?
Ouais. Ne vous approchez pas trop parce qu'elles sont pas mal agressives en ce moment, les abeilles.
Ah oui, on les voit, les abeilles, là.
Et donc là, vous pouvez voir un frelon asiatique qui est en vol stationnaire devant, là. Le plus gros, il vient d'attraper une abeille, là. Regardez l'autre qui repart. Vous le suivez, là, au bout de mon doigt.
Et quand il attrape une abeille, il la mange?
Alors, il y a deux solutions. Il la ramène au nid, parce qu'en fait, le frelon, c'est comme les guêpes, ce sont des espèces, les adultes sont véganes, mangent des fruits, du sucre. Par contre, les larves sont carnivores. Donc les frelons qui viennent chasser, ils vont chercher de la viande ou des abeilles pour nourrir les larves qui sont dans le nid. Et en ce moment, les nids sont gros, donc il y a beaucoup de larves, donc il y a besoin de faire des va-et-vient permanents. En gros, un frelon qui vient chasser, il fait le trajet 6-7 fois par jour. 6-7 fois par jour, il repart avec une abeille. Voilà, donc on a calculé qu'avec cette densité de population, il y avait de l'ordre de au moins 500 abeilles qui disparaissent par ruche, par jour.
Alors, on voit les harpes devant les ruches. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, à quoi elles ressemblent?
Alors, donc, on a mis des systèmes de pièges électriques. Systèmes assez récents, depuis 3 ans. Il y a 2 techniques pour protéger les ruches. C'est de faire soit du piégeage avec des attractifs, des attractifs pour les frelons, donc des sucres, des fruits, des choses comme ça, soit sinon de faire des pièges qui ne sont pas attractifs, c'est le cas des pièges électriques, c'est ce qu'on appelle des pièges d'interception. Le défaut des pièges attractifs, c'est qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont attirés par les fruits et tout, et c'est catastrophique pour la biodiversité. Donc nous, on travaille depuis des années maintenant sur des pièges d'interception qu'on place autour des ruches et qu'on place sur le trajet des frelons. Et c'est comme les fils électriques qu'on met sur les clôtures à la campagne pour empêcher les vaches de sortir. Donc là, on a les arbres sont alimentés, ça fait à peu près 1000 volts le courant qui passe dans les fils électriques. Donc on tisse un réseau de fils, on règle l'écartement à l'envergure du frelon. Donc un frelon, l'envergure, c'est 2 cm, entre 2 cm et 2 cm et demi lorsqu'il est écarté. Donc on règle l'écartement des fils à 2 cm 4 ici. Et le frelon, quand il passe au travers, si les deux ailes touchent deux fils, donc un pôle plus et un pôle moins, il s'électrocute, il prend une décharge électrique. Ça lui fait un choc électrique. Alors il y a ceux qui meurent directement, sinon il tombe dans un bac à eau qui est en dessous, il va se noyer.
Et là on en voit d'ailleurs. Hein,
des et là il y en a.
Il y en a un bon nombre.
Bah là il y en a pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30. Il y en a une quarantaine dans celui-là, il y en a un peu plus dans l'autre là. Donc là, bah, c'est 40 depuis hier soir. L'an dernier, en un mois de fonctionnement des harpes, on a capturé 18 000 frelons en un mois. 18 000.
Là, on vous voit avec des harpes électriques. On sait qu'il existe aussi d'autres solutions pour les détecter, comme des drones, etc. Mais est-ce que vous imaginez aussi pour l'avenir des solutions type biocontrôle pour finalement les... Alors, non pas les éradiquer, mais en tout cas limiter leur progression?
Oui. Donc nous, on travaille beaucoup ici en lutte biologique. Les deux options qui nous semblent tenir la route en lutte biologique, c'est sur la base de micro-organismes. Donc nous travaillons beaucoup sur des champignons qui attaquent les insectes. C'est des champignons qui poussent naturellement dans le sol. Ça ressemble beaucoup aux champignons qui nous font des mycoses, des choses comme ça. Sauf qu'eux, ils sont spécifiques aux insectes. En gros, ils contaminent un insecte. En 3 ou 4 jours, le champignon va pousser, il va se brûler partout dans le corps. Il va attaquer le cerveau, il va attaquer le système respiratoire, les muscles. Bah, l'insecte, il est mort en 4 jours, quoi. Donc nous, on a testé ça sur le frelon depuis 2007, redoutablement efficace au labo, et pour l'instant, on essaye de transférer ça en extérieur, c'est-à-dire de contaminer des nids avec ces champignons. Et l'autre chose, c'est les virus, mais c'est beaucoup plus difficile à manipuler les virus. Mais des collègues italiens ont montré il y a 3 ans, un très joli travail qu'ils ont fait, que les frelons, en mangeant des abeilles, ils attrapaient les virus des abeilles. Et le virus qui est bien connu chez les abeilles, c'est le virus qui déforme les ailes. Hein ? Les abeilles sont plus capables de voler, et ça fait partie, et les frelons commencent à l'attraper, ça. Et on imagine très bien, quand on voit des frelons voler comme ça, que le vol, c'est hyper important pour eux. Tout se fait en vol, donc un frelon qui ne peut plus voler, c'est un frelon qui va très vite être mort. Et une colonie qui ne sera plus alimentée.
Mais vous, est-ce que vous vous dites un monde est possible où coexistent les abeilles et le frelon à condition d'avoir des solutions de protection des écosystèmes peut-être ou...
Oui, ce monde existe. Alors, ça c'est d'autres recherches qu'on mène ici à Bordeaux sur la capacité des abeilles à se défendre elles-mêmes contre le prédateur. C'est compliqué, c'est pour ça que ça avance beaucoup moins vite que ce qu'on fait là par exemple. Si on les laisse apprendre, parce que les abeilles apprennent, et progresser, elles vont développer des comportements de défense. On en voit déjà qui commencent à apparaître. Le problème, c'est que c'est long pour que ces comportements de défense apparaissent. Et là, ça fait déjà 20 ans que le frelon est en France. On ne peut pas attendre encore 10 ans, 20 ans que des comportements de défense, ce qu'on appelle la coévolution, se mettent en place. Sinon, la plupart de notre cheptel, il va se faire détruire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour l'instant, le frelon asiatique, il a surtout fait payer un très lourd tribut aux apiculteurs amateurs.
On voit que Michel est arrivé là. On va aller le saluer. Bonjour.
Michel Costa, un apiculteur dans le village qui subit de plein fouet la prédation.
Quand vous dites de plein fouet ?
Bah de plein fouet, parce que si on ne protège pas les ruches aujourd'hui, c'est voué à l'échec. Hein. Si aujourd'hui vous ne protégez pas les ruches, c'est l'extinction de la ruche dans l'année. Garantie. Moi, les voilà, mes ruches, elles sont là-bas. Là, vous voyez, il y a 2 arbres. Avec un panneau solaire pour l'alimenter plus facilement. Et vous allez voir le résultat. Je vous dis, ça fait 15 jours que je n'ai pas mis les pieds.
Est-ce que ça veut dire qu'avec les harpes, vous revenez à une production normale ?
À peu près.
Très efficace. Et le frelon, ne vous inquiète pas, il ne pique pas l'homme. Hein ?
Non. Il pique l'homme dans un seul cas, c'est quand vous vous approchez de son habitat. Alors là, par contre, il devient vicieux parce qu'il appelle les copains, ils sortent et ils attaquent ensemble.
Il était 10h30 ce matin quand un groupe de randonneurs alerte les pompiers. 5 marcheurs viennent d'être victimes d'une attaque de frelons asiatiques. 5 personnes de ce groupe ont été piquées. Puis l'une d'entre elles, une dame âgée de 77 ans, originaire de Saint-Malo, est décédée d'un arrêt cardiaque. Le chemin a été barré et il est interdit de l'emprunter pendant plusieurs jours.
Face à cette menace, des scientifiques du monde entier sont mobilisés. Ils lancent des alertes lors de colloques justement consacrés à ces invasions biologiques. J'arrive à Paris, dans le 16e arrondissement, dans cet auditorium du CNRS. Au micro, Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS et l'un des meilleurs spécialistes du sujet. On arrive dans l'auditorium.
Les invasions biologiques, juste une petite définition, parce que dans notre communauté, on n'est pas d'accord sur les définitions. Donc je vais vous dire un peu de quoi on parle, et notamment ce que l'IPBES met dans son récent rapport d'il y a quelques mois sur les invasions biologiques. Donc c'est un processus qui implique l'introduction, intentionnelle ou pas, par les activités humaines d'une espèce, ou plutôt des individus d'une espèce, dans des régions qui sont hors de son aire de répartition naturelle, lorsqu'elle s'y établit et lorsqu'elle se propage. Certaines définitions incluent un impact, d'autres non.
Et les contrats se trouvent juste avant de l'escalier.
Ouais. Allez, je vous extirpe du colloque. On va essayer de trouver un endroit calme. Et vous irez au cocktail après ?
Oui.
On va s'asseoir là, on est dans un salon d'honneur du CNRS.
Bah, c'est des ouf.
Alors Franck Courchamp, vous nous avez donné pendant cette conférence un chiffre totalement vertigineux. Plus de 400 milliards de dollars, c'est le coût de ces invasions biologiques. En 2019, vous disiez, c'est 80 fois le budget de l'OMS et de l'ONU, mais c'est faramineux.
Oui, ce sont des sommes qui sont presque inimaginables. On essaie de le reporter au niveau national, donc on regarde dans les différents pays dans le monde. Et évidemment, on a des coûts qui sont différents en fonction des pays, en fonction de leur taille, en fonction des invasions qu'il y a dans ces pays. Mais presque systématiquement, en moyenne en tout cas, on a des coûts qui sont supérieurs au budget national de l'éducation ou de la santé.
Et par exemple, en France, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Est-ce qu'il y a une espèce en particulier qui coûte plus cher ?
Il y a des espèces qui coûtent cher, comme par exemple l'ambroisie qui pollue, entre guillemets, les cultures, et puis qui a des effets au niveau de l'allergie. En Europe, il y a 8 millions de personnes qui sont allergiques au pollen de cette plante. Il y a des espèces qui coûtent cher parce qu'elles vont détruire les berges des rivières, par exemple. On peut penser au ragondin, par exemple, qui peut être assez problématique, ou à l'écrevisse. Il y a plusieurs espèces d'écrevisses qui sont envahissantes, notamment l'écrevisse de Louisiane. Alors là, elles peuvent affecter, par exemple, les berges des rivières, les écosystèmes, mais aussi l'aquaculture et donc les revenus des gens qui travaillent en aquaculture. Il y a comme ça énormément de choses avec des secteurs très divers, de la santé avec le moustique tigre, de l'immobilier avec des fourmis envahissantes qui font perdre la valeur des terrains. Il peut y avoir des choses vraiment très, très diverses qui vont dépendre des pays, en fait.
Et je me tourne vers vous, Philippe Grandcola, vous êtes directeur de recherche au CNRS, ici, écologue. Est-ce que ces invasions biologiques vous inquiètent pour la biodiversité ? Est-ce que ça met en danger certaines espèces ?
Oui, tout à fait. Les invasions biologiques, c'est une des 5 grandes causes de déclin de la biodiversité. Et ce n'est pas seulement un déclin au sens diminution des effectifs. Ça peut être pratiquement un quart des disparitions d'espèces, notamment dans les îles, qui sont expliquées par les espèces qui sont transportées par les humains depuis leur aire d'origine dans des environnements où elles n'existent pas du tout à l'origine. Il faut se rappeler qu'il y a certaines de ces espèces qui posent aussi des problèmes graves, directement ou indirectement pour les humains, comme par exemple le moustique tigre, qui a été importé d'Asie et qui aujourd'hui, sur le territoire métropolitain français, vecteur potentiel ou déjà effectif de plusieurs maladies virales graves.
En France aussi, certaines espèces disparaissent à cause de ces invasions ?
Alors, notamment dans les départements d'outre-mer, hein, dans des écosystèmes insulaires, comme par exemple en Martinique, en Réunion, en Nouvelle-Calédonie, oui, il y a effectivement des risques de disparition. Il y a déjà des espèces qui ont disparu parce que les espèces dans un milieu insulaire, par exemple, des oiseaux qui nichent au sol, ne sont pas préparés à devoir fréquenter des prédateurs, hein, qui vont arriver, comme par exemple le chat domestique ou les rats, dans ces écosystèmes insulaires.
Donc le système se dérègle.
Voilà. Il n'y a pas de régulation naturelle. Quelquefois, le système se dérègle. Hein. On a en souvenir, par exemple, les lapins en Australie, qui aujourd'hui sont toujours une population majeure, ou les dromadaires en Australie également. Hein. Et chez nous, bien sûr, il y a plein d'autres espèces comme celles que j'ai citées, ragondins ou moustique-tigre ou coccinelle asiatique, qui ne se réguleront pas naturellement.
Franck Courchamp parlait tout à l'heure d'une menace largement sous-estimée. Quel est le message que vous voulez faire passer au pouvoir public? Est-ce qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps encore plus qu'aujourd'hui?
Alors, ce qui est important, c'est d'agir vite quand on détecte une invasion. Aujourd'hui, on a par exemple l'abeille naine qui est arrivée dans l'île de Malte. Si elle arrive en Europe, outre l'île de Malte, elle risque de bouleverser les écosystèmes avec les abeilles locales et l'abeille domestique. On a des fourmis envahissantes qui sont aujourd'hui arrivées dans le sud de la France. Et pour le moment, aucune action réelle n'a vraiment été entreprise pour les limiter. Là, c'est une erreur. Hein. C'est une erreur qu'on a eue avec le frelon asiatique qui, 20 ans après, faute d'action concertée au plan national, s'est répandu sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui qui pose une menace qu'il faut maîtriser en permanence et qui ne disparaîtra jamais. Donc, la première mesure à prendre, c'est quand une invasion est signalée, c'est immédiatement d'agir pour éradiquer cette espèce envahissante.
Vous parliez de l'abeille naine, par exemple. Est-ce qu'il y a certaines espèces qui vous font peur, là, vous, personnellement, pour la France ou même pour d'autres pays?
Alors, certaines espèces de fourmis sont particulièrement inquiétantes parce que ce sont des toutes petites fourmis qui voyagent très bien avec des échantillons de terre dans des pots de fleurs ou sous des caisses de transport. Et ces espèces-là, en fait, quand elles sont lâchées dans certains écosystèmes, ont vraiment un pouvoir de nuisance absolument considérable et leur petite taille, finalement, pour une personne moyenne, une fourmi ressemble beaucoup à une autre fourmi, hein, sauf que le potentiel de ces fourmis-là peut être colossal. Et là, vraiment, le danger peut être multiple. Il peut être pour la faune locale, il peut être pour les cultures, et puis il peut être aussi pour les humains, par exemple les agriculteurs ou les paysans, hein, qui vont se retrouver confrontés avec une fourmi agressive, hein, qui va leur pourrir la vie au quotidien. Certaines de ces fourmis ont des piqûres qui sont vraiment très désagréables. Donc il y a à la fois un enjeu d'écosystème et puis même un enjeu de confort et de santé humaine.
Les envahisseurs.
David Vincent les a vus. Présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé.
Les scientifiques traquent donc à la loupe tous les futurs envahisseurs. Mais il est parfois complexe de les repérer et de les empêcher de progresser à travers les courants marins, dans les airs ou même au sol. L'espèce exotique qui fait en ce moment frémir est aussi minuscule que mobile. C'est un scarabée venu du Japon, prélevé récemment à la frontière franco-suisse où une chasse préventive a débuté. C'est tout près de cette frontière, à Bâle, que l'on retrouve Célia Kiré.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Voilà, on est descendu du train. On arrive à Saint-Louis, on est au sud de l'Alsace, tout près de la frontière avec la Suisse. Et on est ici justement parce qu'en Suisse, juste à côté, à Bâle, ont été découvertes des populations de scarabées japonais, tout récemment, en juin. Et ici, la préfecture est en opération commando pour bloquer ces scarabées japonais et empêcher qu'ils n'arrivent ici, de l'autre côté de la frontière. On est toujours dans la ville de Saint-Louis. Il y a des terrains de foot et des terrains de sport pas très loin. Et on va rencontrer Isabelle Maurice. C'est elle qui s'occupe de la prévention contre les scarabées japonais à la Direction générale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Je vois qu'elle est accompagnée certainement par une dame qui est là aussi pour installer des pièges. Ils en installent une trentaine en ce moment à la frontière entre la Suisse et le Haut-Rhin. Bonjour.
Bonjour.
Alors à quoi il ressemble ce scarabée?
Alors...
Vous nous en avez apporté un dans votre sac à main.
Voilà. Alors ils sont tous morts, hein, rassurez-vous.
Après, il n'y a pas de danger pour l'homme, hein. C'est pas comme la fourmi de feu ou la fourmi
non.
électrique.
Voilà, non, il n'y a pas de danger pour l'homme. C'est des dangers pour l'activité économique et aussi pour l'environnement à terme, quoi. Mais vous voyez, c'est tout petit.
Donc c'est tout petit.
La
c'est
taille
même,
d'un ongle.
Même pas un centimètre. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
Et on peut dire qu'il y a des couleurs aussi.
Oui.
En fait, par rapport à un scarabée classique, il y a du orange, du jaune, du bleu, du vert.
Voilà, il a les ailes cuivrées et la tête, hein, le thorax, vert brillant. Donc c'est vrai qu'il est assez joli.
Vous les avez trouvés où ?
C'est des collègues italiens qui nous les ont envoyés morts. Donc là, il y a un terrain de sport qui est exploité par la ville de Bâle. Il y a des équipes de foot qui jouent. Et justement, c'est le type de terrain particulièrement attractif puisqu'il commence sa vie finalement dans des terrains comme ça, d'herbes assez rases, si possible irriguées, etc. Donc ça, c'est vraiment le milieu idéal puisque dans ces cas-là, la femelle, elle vient pondre ses œufs. La larve se développe en mangeant les racines des graminées, de l'herbe, donc là c'est super pour la larve. Derrière le terrain, en fait, c'est la Suisse, hein, dans la ville de Bâle, où ils ont trouvé justement un foyer, hein, c'est-à-dire des scarabées qui sont nés sur place et qui ont pu comme ça être disséminés.
Donc ça, c'est un piège que vous venez de mettre en place.
On l'a mis en place en juin.
En juin, ça ressemble à quoi?
Je te laisse.
Ouais. Vous êtes
Marion Delave, donc inspectrice en santé des végétaux. Donc il y a un bol, un entonnoir et des ailettes et un chapeau. Donc sur le chapeau, il y a l'attractif qui est fixé. Le popilia va venir se cogner dans les ailettes. Donc il est attiré par l'attractif, il se cogne dans les ailettes. Il tombe dans le bol et l'entonnoir fait en sorte que le popilia ne ressorte pas du piège.
Quand vous dites popilia, c'est
le scarabée. Oui, popilia japonica.
Et là, il y en a ou pas dedans?
Non.
On peut ouvrir. Le seau est vide.
Le seau est vide, voilà. On cible le réseau routier, le réseau ferré, parce qu'il se déplace, c'est un autostoppeur, donc il se déplace grâce donc aux voitures, aux camions, aux trains. Donc généralement, on cible donc soit les aires de repos, soit les gares routières ou gares ferroviaires. Et donc sinon, ici, donc dans ce secteur, vu qu'il y a eu des captures à Bâle donc au mois de juillet, les zones privilégiées, c'est donc, comme disait Isabelle, donc soit les stades de foot, les jardins familiaux.
Tous les endroits aussi, finalement, où il a pu trouver le gîte et le couvert, quoi, hein. Les adultes peuvent être attirés par différents hôtes. Hein. En ville, ça va être des tilleuls, des roses, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que les adultes ont bien mangé, se sont reproduits, la femelle, elle va chercher un terrain pour pondre ses œufs.
Quels sont les dégâts, justement, qui ont été constatés, soit en Suisse, soit en Italie? Pourquoi ça vous inquiète autant, finalement, ce scarabée japonais?
Quand il arrive à un endroit, généralement, il arrive massivement, parce que la femelle, je crois qu'elle peut pondre jusqu'à 80 œufs, ça se multiplie très très vite. En plus, quand ils sont adultes, hein, ils volent et puis ils se reconnaissent avec des phéromones, et ils se rassemblent tous. Et du coup, ça mange tout. Toutes les feuilles sont mangées, il reste juste de la dentelle. Hein. On a des exemples sur vignes, on a des exemples sur rosiers, sur des fruits. Ça fait vraiment une grosse pullulation qui va manger tout sur son passage. En Italie, nous ont dit aussi, donc finalement, avec un traitement insecticide, ça permettait de récupérer la récolte, enfin d'y avoir pas trop de dégâts. Simplement, c'est un traitement insecticide supplémentaire. Donc finalement, chaque année qu'on gagne, c'est autant d'années avec moins d'insecticides, quoi. Là, il y a un enjeu là aussi en termes d'environnement et de santé publique, quoi. Quand on le détecte, il faut mettre en place tout de suite des actions énergiques, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à éventuellement l'éradiquer. quelque part, c'est peut-être perdu d'avance. Mais toutes les années gagnées, c'est autant de produits d'insecticides en moins dans l'environnement. Donc, c'est un peu Don Quichotte, mais ça vaut le coup quand même, parce que tout ce qu'on peut faire pour retarder son installation, ben, ça permet de trouver d'autres moyens de lutte, peut-être de trouver aussi des luttes biologiques, etc. On aura eu le temps de s'organiser, c'est ça.
Lorsque nous arrivâmes dans l'île de Mascareigne, il n'y avait ni rats, ni souris, ni serpents, ni couleuvres, ni crapauds. Mais depuis quelques années, par l'accident d'une chaloupe qui échoua à la côte et dans laquelle il devait apparemment y avoir des rats, cette vermine a tellement multiplié dans l'île qu'on la prend pour un fléau que Dieu y a envoyé par le désordre qu'elle cause aux plantations. Les habitants n'ont point d'autre moyen de s'en garantir que de dresser des chiens qui vont à la chasse des rats et qui en détruisent quantité. François Martin, 1665.
On a quitté l'Alsace, on est maintenant à Rungis, près de Paris, au marché d'intérêt national, parce que l'INRAE a déployé des pièges dans 29 endroits en France, des endroits stratégiques où on peut détecter les futures espèces exotiques envahissantes. Il s'agit par exemple des aéroports comme Roissy, Orly, des ports, Sète ou La Rochelle, et ici, du marché de gros de Rungis. On va rencontrer Alain Roch, directeur de recherche à l'INRAE. C'est lui qui a posé ses pièges ici à Rungis. Alors là, Alain Roch, on marche dans un cimetière. Oui. C'est assez étonnant comme endroit. On est tout près du marché d'intérêt national de Rungis. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. Vous vous intéressez à ces espèces exotiques envahissantes. Pourquoi vous nous emmenez précisément dans ce cimetière ?
Parce que donc on a disposé à la fois des pièges à l'intérieur du marché national, un piège noir et un piège vert qui sont destinés à différents groupes d'insectes. Et ces pièges à l'intérieur visent à attraper les insectes dès qu'ils arrivent. Et ensuite, l'idée, c'est de suivre leur dispersion éventuelle. Donc le point le plus proche boisé du mine de Rungis, c'est dans ce cimetière.
Et là, effectivement, on voit une forêt, finalement, tout près du marché.
Tout à fait. Ça sert, disons, grosso modo, la forêt elle-même est un piège. Et nous, dans cette forêt, on met des pièges attractifs qui peuvent permettre de détecter la dispersion des insectes étant arrivés à Rungis.
Et là, on entre quasiment dans une petite forêt, là.
Voilà.
Et ce sont plutôt quels insectes que vous recherchez là, précisément, dans ce piège ?
Justement, là, ce sont des capricornes et des scolytes. C'est-à-dire les groupes qui sont les plus dévastateurs au niveau des espèces envahissantes. Donc des capricornes qui se trouvent transportés avec soit le bois, soit les plantes, soit des objets en bois d'autres continents. Et donc notamment sur Rungis, il y a quelques années, on a capturé un insecte qui vraisemblablement était arrivé avec des figurines en bois d'Asie du Sud-Est. Et les pièges là que nous avons sont appâtés avec un mélange de phéromones qui sont au nombre de 10 là à l'heure actuelle et qui attirent les mâles comme les femelles des différentes espèces de capricornes. Disons, c'est ce qu'on appelle un piège à vocation générique. Donc sur cette base-là, on a fait un mélange qui a l'avantage d'avoir un très large rayon d'attraction. Et il peut arriver à capturer jusqu'à 400 espèces de capricornes. Et on a capturé plus de 4000 individus de 22 espèces exotiques l'année dernière par ce dispositif-là. Et je peux vous dire que on en a capturé dans 88% des 29 sites. Ici même, on a eu un capricorne et un petit scolyte qui ont été capturés.
Donc là, c'est de la détection ultra précoce. En fait, ce que vous cherchez, c'est les futurs envahisseurs de demain.
Non, on cherche ceux qui ont réussi à arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils sont établis. Ça veut dire qu'on les intercepte. Par définition, ceux qui arrivent ne sont pas nécessairement connus. On a même un cas là, récemment, d'un insecte, un petit scolyte, qui a été capturé et qui est nouveau pour la science. Sauf qu'il attaque les eucalyptus Et donc cet insecte, on a pu le détecter via nos pièges. Ensuite, on est revenu sur les musées en Australie et on a pu retrouver des exemplaires qui n'avaient pas été identifiés. Et donc là, il a été décrit pour la première fois au plan mondial. Donc notre idée à nous, c'est d'essayer d'avoir des attractifs qui permettent d'assurer une détection très large par rapport à des espèces qui ne sont pas anticipées. Mais pour ça, il faut aussi que l'on essaye d'avancer vers une automatisation plus grande de nos dispositifs qui permettent de détecter immédiatement et d'identifier immédiatement l'insecte. Pour l'instant, il y a un laps de temps entre la capture de l'insecte dans les ports et puis leur identification. Donc là, on travaille sur des systèmes qui pourraient permettre de transmettre à distance les images des captures et via l'intelligence artificielle arriver à les identifier. Et même, c'est une des possibilités là qu'on a commencé à discuter, prélever l'insecte en question directement par des robots pour le soumettre à des analyses moléculaires in situ.
Ça donne de l'espoir, ça veut dire qu'à l'avenir, on pourra peut-être détecter et anticiper ces nouveaux envahisseurs.
C'est ça. Enfin, c'est en tout cas le but de nos études.
L'assaut des espèces invasives, c'était un reportage signé Célia Quiret. À la prise de son, Virginie Lorda en Corse, Nicolas Mathias en Gironde, Thibaut Nassim Ben dans le Haut-Rhin et Martin Troadec à Rungis. Réalisation Gaëtan Colli, assisté de Martine Messonnier. Mixage Cédric Châtelu. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Interception sur l'appli Radio France.